Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 10 janvier l'an 2001 à Saint-Jean-d'Or.
Millénaire, hein, au point de vue philosophique. Je lui souhaite une bonne année de travail et de recherche intellectuelle, que votre intelligence se rajeunisse tout le temps. C'est-à-dire qu'elle revienne ce qu'elle doit être. Parce que notre intelligence, quand on ne la fait pas vivre, tellement vite, elle devient résonante. Et l'intelligence est celui qui résonne. Et ce n'est pas celui qui découvre, qui va aux sources. C'est ça qui est important. Quand on découvre une source, on laisse sa canalisation à côté, avec un peu de mépris. On a canalisé notre intelligence d'une façon terrible. Les mathématiques ont tout pris, ont pris la place de la métaphysique. Et c'est difficile de la déloger parce que elle est raide. Hein. Elle a beaucoup d'enfants. Elle domine dans beaucoup de domaines. Et son efficacité est visible. Les mathématiques ont une efficacité prodigieuse dans tous les domaines. Alors on l'apprend pour régner. Et la philosophie, la métaphysique, la philosophie réaliste, et entre eux, les mathématiques, et puis, parce que c'est un moyen d'échapper aux mathématiques, c'est de tomber dans la subjectivité absolue. Les mathématiques ont une objectivité. Une objectivité merveilleuse, un peu sèche, mais merveilleuse. C'est vrai. Elle se communique un tempérament irascible, un tempérament affectif. Les affectifs trouvent moins de place dans les mathématiques, les irascibles mieux. C'est vrai, ça. Parce que c'est une intelligence plus très solide, hein, les mathématiques, très horizontale, très propre, très ordonnée. Dit que l'affectivité aime mieux les intelligences plus poétiques. Ordinairement, c'est ce qu'il y a dans les affectifs. Ils ont une intelligence plus poétique. Ils aiment le symbole, mais pas le symbole mathématique. Le symbole mathématique n'est pas du tout le même. Mais c'est curieux que c'est aussi symbolique. C'est très humain, le symbole. C'est terriblement humain. C'est pour ça qu'on ne doit pas le supprimer, mais on le met à sa place. Il faut souvent revenir au point de départ. C'est-à-dire, pourquoi je fais de la philosophie? Pourquoi le Saint-Père a écrit son encyclique, Fides et Ratio. Pourquoi ça? Et pourquoi on en tient si peu compte? Parce que ça, c'est une donnée objective. Je ne sais pas. combien de grands séminaires en Europe tiennent compte de l'encyclique Fides et Ratio. En Amérique latine, oui, du moins en Argentine. Alors, quelquefois, d'une façon un peu trop logique, autrement très peu. Et ça doit désoler Saint-Père, parce qu'il tenait à cette encyclique. Il tenait. La dernière parole, quand j'ai vu, quand on pouvait encore le voir assez facilement, et où est-ce qu'on enseigne véritablement la métaphysique réaliste, une philosophie sapientiale, où est-ce que ça s'enseigne? Or, le Saint-Père a dit quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et nous devons en tenir compte, même si personne ne tient compte, parce que ça fait partie d'être catholique, ça. C'est de reconnaître que le Saint-Père ne dit rien en vain. Il est chef. Alors quand on commence à regarder que le chef bavarde, dit des choses qui sont complètement inutiles, il n'est plus chef. Donc, Saint-Père est vraiment l'homme que Dieu a choisi pour notre temps, pour mettre les points sur les i. Il y a là une lacune grave, dangereuse. Et Paul VI avait dit « Le plus grand danger actuel dans l'Église, c'est le fidéisme. » Et il le disait en connaissance de cause, « Le plus grand danger actuel dans l'Église, dans la pensée moderne, c'est la perte du sens. » Le Saint-Père le dit au début de l'encyclique. Donc vous voyez, la dégringolade. Hein, et c'est très juste. Le fidéisme tue l'intelligence. La foi ne nous donne aucun concept. Et donc, quand à la place de la raison, on met la foi, il n'y a plus grand-chose. La génération suivante. C'est-à-dire exactement ce qui se passe. De Paul VI à Jean 23, à Jean-Paul II. Perte du sens. C'est quelque chose de très significatif. Le Saint-Père dit, l'Église n'a pas de philosophie propre. Autrement dit, Dieu fait une telle confiance à l'homme, à l'intelligence humaine, qu'il ne veut pas lui-même venir nous apprendre à penser. Il nous apprend à être croyants, d'être des petits-enfants. Si vous ne revenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la foi. Si on n'a pas la foi, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc, vous n'entrerez pas dans la raison. La raison sera fermée, complètement. Vous n'y entrez que par la petite porte étroite. Et cette petite porte étroite, c'est la foi. La foi est la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est la nourriture de la foi. La foi se nourrit de la parole de Dieu, comme parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu se donne à travers un langage humain. Je puis m'intéresser à ce langage humain et rien comprendre à la parole de Dieu. Je m'occuperai du vêtement sans m'occuper de celui qui est revêtu. Et c'est ce qui arrive dans notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'on s'occupe énormément des formes du langage. Dieu me parle avec des langages très différents. Je lis à Paris avec un groupe de messieurs que je connais depuis 40 ans. Dedans, il y a des intellectuels, des savants. Et je lis la Genèse. Je vois que combien c'est difficile pour eux, mentalité scientifique, d'accepter ce langage de Dieu, d'accepter ce langage de Dieu pour montrer d'où nous venons. Ce langage poétique, symbolique, c'est vrai, c'est pas commode du tout pour un savant habitué à un langage sérieux. Dieu qui a l'air de nous prendre pour des gosses, hein. Tout à fait. Et il nous prend comme des gosses. Si vous devenez comme des petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est curieux, hein. Parce que Dieu savait très bien que l'humanité deviendrait une humanité savante. Dieu le savait. Et le langage de la Genèse demeure. Et je ne sais pas dire, surtout ne lisez plus la Genèse. Hein. Surtout ne la lisez plus. Parce que ça vous fera un scandale. Non, il maintient dans la vie, premier livre, la Genèse. C'est même le début. Hein. Ce que le petit Jean, hein, ce qui sait le mieux, c'est son commencement. Le commencement de notre foi, c'est la Genèse. C'est que nous savons le mieux. Oui, c'est rude. Un langage métaphorique, un langage symbolique. Parce que le langage symbolique, c'est la première forme de notre langage humain. Un enfant sait très bien ce que c'est que le langage symbolique. Du moins, il s'en sert, sans très bien savoir ce que c'est, mais il s'en sert, spontanément. Il est très important pour nous de comprendre que Dieu nous laisse le soin d'avoir une philosophie. Puisque l'Église n'a pas de philosophie. Donc, il nous laisse ce soin d'avoir une philosophie. Nous sommes responsables, autrement dit, de la philosophie qu'on a. Nous sommes responsables de la philosophie qu'on a. Alors si nous apercevons que la philosophie est un peu trop dure, on le saura, puis on demandera à ceux qui ont poussé plus la philosophie de nous aider. Je me souviens, c'était avec le père Danielou, quand il était cardinal. J'avais, à Fribourg, écrit une petite note philosophique et j'aurais aimé avoir son avis. Là, j'ai envoyé ça. Je pouvais le faire parce que je l'aimais beaucoup et il m'aimait beaucoup. Alors, il m'a répondu en renvoyant l'article. Je suis nul en philosophie. Je regrette beaucoup. Je suis entré agrégé dans la communauté des pères jésuites et ils ne m'ont pas fait faire de philosophie, puisque j'étais agrégé. De sorte que je suis nul en philosophie. Je suis agrégé et je suis nul. Je regrette beaucoup. Actuellement, je suis désolé de ça, parce que je vois très bien que je n'ai plus le temps. Je ne peux pas me permettre, c'est impossible. Mais je vois combien c'est nécessaire. Et il renvoyait l'article en disant, je ne peux rien vous dire. Et on en a reparlé du reste après. On est responsable de la philosophie qu'on a. Et on vous donne le temps de pouvoir en faire. Or, on est tous, tout homme peut être philosophe. C'est ça qu'il faut se dire. Ne dites pas, d'un côté, les intellectuels, oh, c'est le bon point intellectuel. Non, c'est humain, la philosophie. C'est une sagesse humaine. Alors, on entre dans la philosophie par des portes différentes. Première porte, philosophie de l'art. Aujourd'hui, tous les jeunes sont un peu artistes. Philosophie de l'art. Philosophie éthique. Philosophie de la communauté politique. Ben oui, c'est évident, on a plus ou moins. Certains ont un sens très fort du point de vue politique. Alors, ça tombe aujourd'hui dans la sociologie, vous voyez ça à côté, dans la psychologie à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a des possibilités pour nous de réfléchir sur nos expériences fondamentales au point de vue artistique, au point de vue amitié, au point de vue politique. On vit en communauté quand même. On a une expérience politique beaucoup plus grande que des quantités de politiciens qui n'ont pas vécu dans la communauté. Ils ont vécu individuellement en Sorbonne, et puis on les a mis politiques. Ils n'ont une expérience que de l'économie. Et ça remplace le point de vue politique. Alors, la vie commune, hein, c'est pas commode à avaler, la vie commune. C'est pas commode. Faites la philosophie de votre vie commune. Hein. Ayez un petit carnet particulier où vous notez vos expériences. Vous savez, le noviciat est suffisamment nombreux, avec des pays différents, des mentalités différentes. C'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux comme bain. On a des tempéraments bouillants. Hein. Le Mexicain d'à côté, je veux dire. C'est intéressant de voir ça, toujours intéressant. C'est difficile d'arriver à mater un... Vous comprenez, on ne doit pas le faire, on ne doit jamais arriver à mater, dresser, non. L'éducation ne dresse pas, elle vous rend intelligent. C'est vous qui devez vous-même vous éduquer. Vous-même. On vous remet à votre situation et vous éduquez un Mexicain à côté d'un Français. Un Mexicain à côté de quelqu'un des États-Unis. Et ainsi de suite, vous voyez, mais c'est très riche que ce que vous avez au noviciat comme philosophie politique. Puis après, l'intelligence qui recherche, Le devenir. Qu'est-ce que c'est que le devenir? La nature. Le vivant. La métaphysique. Et la théologie naturelle. Vous voyez, il y a 7 portes dans la sagesse philosophique. Or, je crois qu'il n'y a aucun homme, aucune femme, qui, dans ces 7 expériences, ne trouvera une expérience qui lui convient plus. Il y en a 7. Vous êtes artiste, oh, entrez dans la philosophie de l'art. Et puis quand vous entrez dans la philosophie de l'art, vous verrez que l'homme ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a autre chose, l'amitié. Faites la philosophie de l'amitié. Ne vous contentez pas seulement d'aimer, réfléchissez sur votre amour. Et comprenez que vous devez réfléchir là-dessus. Pour que votre amour soit plus vrai, plus profond. Et réfléchissez sur ce que c'est que la communauté, le bien commun. Et définissez le bien commun, dit Novicien. Hein. Ce serait amusant. Comme on cherche. On aurait 100 définitions distinctes. Je suis sûr. Le bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Le bien commun, c'est celui qui n'est pas le bien personnel. Négation. Le bien commun ne peut jamais vous donner le bonheur. Parce que le bonheur est toujours personnel. Toujours. Et vous savez bien. On vous dira tout de suite, vous n'avez pas le sens du bien commun. Inclinez la tête, dites-vous, c'est vrai, je n'ai pas le sens du bien commun. Non, on a la peine d'avoir le sens du bien commun. Mais si vous avez le sens du bien personnel, vous aurez le sens du bien commun. Le bien commun, c'est le bien de tous ceux qui font partie de la communauté. Ne faites jamais au prochain ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. Ah. D'accord, vous dites que dans un accès de colère, ce qu'il est bête celui-là, ben, j'ai pas très agréable de recevoir la douche de la bêtise. Vous voyez, la philosophie, c'est nous qui devenons philosophes. Et si nous sommes chrétiens, le pape nous demande de l'être aujourd'hui. C'est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on ne vit plus dans un état humain. Dans aucun pays. En Europe, rien. Aux États-Unis, rien. En Amérique du Sud, peut-être encore, hein, pas toujours. On ne vit plus dans un état humain, donc on doit soi-même avoir sa philosophie. L'Église nous le demande. Vous ne serez pas théologien si vous n'avez pas votre philosophie. Vous contenterez alors à ce moment-là uniquement d'être un historien. Vous pouvez être historien sans philosophie. Mais vous ne pouvez pas être théologien. La sagesse théologique implique la philosophie. Il n'y a pas de sagesse historique. C'est une erreur de prétendre qu'il y a une sagesse historique. Alors, on doit soi-même, vite, parce que ça, on vous le demande, hein. On vous le demande. On ne peut pas vous rendre... On peut vous donner une recherche philosophique, mais on ne peut pas vous donner l'intelligence. que le père de Haume rappelait tout le temps de son vieux professeur dominicain de philosophie, qui, lorsqu'il était agacé devant ses étudiants qui avaient l'air de rien comprendre, il a dit « Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Je peux bien vous donner la manière de creuser les problèmes. Voilà ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. L'intelligence, il faut vouloir être intelligent. Oh. Parce que l'intelligence, dans notre monde d'aujourd'hui, est enfouie. Est enfouie. On ne cherche pas à l'éveiller. On cherche au contraire à l'éteindre. Alors, on doit tous avoir cette volonté propre d'éveiller en nous ce qu'il y a de plus divin, l'intelligence et l'amour spirituel. D'éveiller ce par quoi nous sommes l'image de Dieu. Éveiller notre intelligence. Éveiller notre intelligence, c'est commencer à être philosophe. Et en avoir, si vous n'avez pas la conviction, c'est la première chose qu'il faut avoir comme conviction, être convaincu de ça. Et si on ne l'est pas, demandez à votre père maître, les novices, comment être intelligent. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est la première chose à comprendre, à saisir. Cette recherche du bien de notre intelligence, la vérité. Et bien distinguer la vérité avec tout simplement la sincérité. Trop facilement, on identifie vérité et sincérité. Ce n'est pas la même chose. Il faut arriver soi-même, hein, parce que vous l'avez entendu, on le dit, mais il faut que vous-même, vous puissiez distinguer ça, et le distinguer en vous. C'est un examen de conscience philosophique. On doit faire de temps en temps cet examen de conscience philosophique. Au début de l'année, c'est excellent. L'éveil de l'intelligence. L'intelligence cherche, elle interroge. Alors, on doit être attentif à ça. Est-ce que vraiment je cherche la vérité? Ou est-ce que je subis les cours? Ou est-ce que je subis le noviciat? Est-ce que je subis le temps qui m'est donné, les études philosophiques, et puis après théologie? Il y a un éveil personnel qu'il faut tout savoir de recherche de la vérité. Par des voies différentes, vous pouvez très bien rechercher la vérité au point de vue activité artistique, au point de vue amour d'amitié, au point de vue vie. Qu'est-ce que c'est que être vivant? Est-ce que je suis un vivant? Alors, on arrive à préciser les interrogations. Celui qui cherche, c'est celui qui interroge. Si vous n'interrogez jamais, vous ne cherchez pas. Celui qui cherche, c'est celui qui interroge. Et il interroge de diverses façons. Et il faut repérer les façons dont vous interrogez. Et ça, c'est vous, c'est votre travail personnel, c'est le petit livre personnel. Les deux grandes interrogations, pourquoi, comment. C'est capital de discerner ce que Auguste Comte, c'est bien de notre époque, hein, ce que Auguste Comte dit tout de suite qu'il faut bien discerner ça. Alors, c'est faux la manière dont il qualifie ces deux interrogations, mais c'est juste. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Le ti esti grec, qu'est-ce ? Et puis le pose, le comment. Bon, arriver à faire un discernement net dans ces deux interrogations, c'est capital. Si vous n'y arrivez pas, il faut demander à celui qui vous aide, de demander au père maître, de demander à vos professeurs. J'arrive pas à poser la question. C'est capital, ça. Vous voyez, il y a quelques interrogations comme ça sur lesquelles il faut tout le temps venir. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que cela ? Alors, puisque nous nous servons d'Aristote comme un maître mort, Aristote est le premier en face de Platon. Et c'était courageux en face de Platon. C'était courageux de poser le problème du ti esti, qu'est-ce, et le problème du pos, comment. Et dans le ti esti, voir qu'il y a des demeures différentes. Le ti esti de la cause matérielle, qu'est-ce, en quoi cela est fait, en quoi j'ai mon corps. Et pour savoir ce qu'est mon corps, il faut savoir en quoi il est. L'origine, d'où ça vient. Ce que c'est au point de vue de la détermination. Ce qu'on est au point de vue de notre activité. On peut agir sur les autres. Et comment j'agis ? C'est vrai, chacun d'entre vous, vous agissez sur votre voisin, vous agissez en bien ou en mal. Et puis la finalité. Alors on insiste beaucoup sur la finalité, parce que toute l'éthique repose sur la finalité. Mais déjà dans l'activité artistique, on découvre la finalité. Et soi-même avoir le sens de revenir aux choses tout à fait primordiales. Parce que ces choses primordiales, si on fait des confusions, une confusion entre la cause formelle et la cause finale, il y a des barrages. Vous n'arriverez jamais à découvrir l'existence de Dieu. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Vous n'arriverez jamais à le dire si vous confondez la cause formelle et la cause finale. Vous voyez, c'est important quand même, parce que la confusion entre ces deux causalités fait une barrière, quelque chose qui m'arrête. Il faut donc reprendre à la racine le point de vue de la détermination d'une chose. Quelle est la distinction entre un homme et un animal ? Ça paraît très bête, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas la distinction. Quand l'humain apparaît en vous, et pas l'animal. Cause matérielle en moi, mon corps. Oui. Aujourd'hui, hein, le corps de l'homme et le corps de l'animal, on les met en parallèle. Et c'est évident, au point de vue de la causalité matérielle, et purement matérielle, le corps humain apparaît plus évolué, plus étouffé. L'oreille du porc et la mienne, hein, elle est plus grande, celle du porc. La vue, et ainsi de suite. Arriver à distinguer la cause formelle, la cause finale. Et entre deux, la cause efficiente. Prendre ces distinctions-là qu'Aristote nous donne, et se demander si ces distinctions, depuis Aristote, est-ce qu'on en a trouvé depuis ? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Se poser loyalement la question, mais loyalement. Est-ce que depuis Aristote, on a fait des progrès sur l'interrogation ? Interroger, c'est quelque chose de très, très radical. Et ça développe le désir de l'intelligence. Mon intelligence a un appétit, elle interroge. Et si on a arrêté l'interrogation par nos méthodes d'enseignement, il faut qu'en philosophie, vous recommenciez à interroger. Et vous essayez dans vos interrogations de voir si il y a quelque chose d'autre que la recherche de la cause matérielle, de la cause finale, de la cause formelle, de la cause efficiente. Y a-t-il d'autres pistes ? Il faut se le demander. Si vous ne le demandez pas, vous resterez toujours en disant « Oui, c'est Aristote qui a dit ça. » Mais non, Aristote l'a dit, oui, il l'a dit. Mais c'est l'homme qui le dit. C'est l'homme qui cherche, qui le dit radicalement. Comprendre que dans la recherche des réalités, il y a cette interrogation. Merleau-Ponty a redonné, à ce point de vue-là, c'est intéressant, a redonné un sens à l'interrogation. Ce que la scolastique avait supprimé. Parce qu'elle se prenait à partir de la théologie. L'interrogation du théologien est tout autre que celle du philosophe. Le théologien interroge à partir de la foi. Est-ce que je peux découvrir dans la réalité qui m'est donnée par la foi, est-ce que je peux découvrir quelque chose d'intelligent ? Est-ce que je peux découvrir que ceux qui prétendent que la foi est contradictoire avec la philosophie, ils font fausse route. Ça, je peux le poser déjà maintenant, puisque nous sommes croyants. La différence entre le philosophe et la foi. Et comprenez que le Saint-Père vous demande de faire de la philosophie. C'est, au fond, j'allais dire, on n'est pas libre. Si on veut être chrétien dans ce troisième millénaire, il y a une nécessité de rechercher la philosophie, savoir ce qu'elle est. et soi-même aboutir à une certaine philosophie. L'encyclique du Saint-Père nous le demande. Vous voyez, c'est important pour nous, parce que ça montre que l'Église, prenant conscience de ce qu'elle est actuellement, reconnaît que cette recherche philosophique est nécessaire pour éviter les pires erreurs. On peut ensuite, et on doit le faire, voir que les interrogations à l'égard de notre activité artistique, de notre activité éthique, de nos activités humaines sont très complexes. Il y a beaucoup d'autres interrogations qu'au point de vue purement philosophique. La question du temps, la question du lieu, la question des relations, la question de tout le milieu dans lequel on est. Il est évident que quand je suis novice, je suis dans un contexte humain qui n'est pas uniquement humain. Vu dans un point de vue purement humain, le noviciat comme noviciat, c'est difficile à comprendre. Or, je peux avoir des amis non chrétiens et je leur fais comprendre ce que c'est que le noviciat. Je dois réfléchir sur cela et être vraiment un ami du Christ. Et un ami du Christ, c'est constamment parler pour le Christ à ces gens qui ne le connaissent pas, à ces hommes qui ne le connaissent pas. En ami du Christ, en ami du Christ, je fais comprendre ce que c'est que certaines activités qui sont purement humaines, qui sont purement chrétiennes. La distinction entre les deux. Je suis capable de discerner ce qui est bon humainement, ce qui est bon chrétiennement. Et je m'habitue à distinguer. Si je ne le fais pas, je ne cherche pas du tout le point de vue philosophique. Et je dois le chercher. L'ignorance de beaucoup de chrétiens au point de vue philosophique, ils ne s'en aperçoivent pas, mais sont l'occasion de quantités qui ne suivent plus la vie chrétienne. Parce que on aurait dû les éclairer. Et c'est un devoir pour nous d'arriver à ces distinctions-là. Ça demande une réflexion, et une réflexion personnelle. Il faut s'habituer à un travail personnel, pas se contenter de suivre les cours. Ayez un livre philosophique que vous travaillez. Et là, demandez conseil pour savoir si c'est bien celui-là. Et vous le travaillez personnellement. C'est-à-dire, vous analysez ce qui est dans ce livre. Vous le travaillez. Et ça, il faut faire ça très vite. Si on ne fait pas ça dès le noviciat, on ne le fera plus après. Et c'est la plupart du temps ce qu'on dit. Le travail personnel se fait difficilement. On apprend à travailler, ça s'apprend. Donc on en est responsable. Il ne faut pas dire, oh, moi je ne travaille pas, je ne sais pas ce que c'est. Non. Vous devez savoir ce que c'est. Et vous devez savoir que pour vous, il y a ce travail dans ce sens-là, je travaille dans l'autre sens. Il y a une prise de conscience de ce qu'on doit être en tant que philosophe, en tant que théologien, en tant que chrétien. On doit pouvoir faire ça. Et faire très vite, très humblement. Au début, c'est pas commode du tout. Au début, on ne se porte pas bien. Je me souviens de cette personne dans un voyage de l'Inde. Il voulait écrire un peu sur le point de vue religieux. Alors, elle demandait la signification des gestes. Et la plupart du temps, elle me disait, ils ne savent plus la signification des gestes. Le chrétien, est-ce qu'il sait la signification de ses gestes? Un chrétien doit savoir la signification de ses gestes. La liturgie, c'est ça. Ce sont des gestes chrétiens, humains. Ils sont parfaitement humains et ils sont parfaitement chrétiens. Et on sait que ces gestes, c'est comme un vêtement de toute notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne apparaît au grand jour à travers la liturgie. Notre vie chrétienne, si on la vit vraiment, implique cette manifestation. Parce qu'on la vit en communauté et on la vit personnellement. Et il y aura toujours l'équilibre entre cet aspect communautaire et cet aspect personnel. Vous voyez, je crois qu'il faut qu'on soit conscient de cette émergence personnelle qui doit se faire à l'égard de toutes nos activités humaines et comprendre ces émergences chrétiennes ne suppriment en rien les exigences humaines mais approfondissent ces exigences humaines en permettant qu'elles deviennent chrétiennes. Toutes les exigences chrétiennes sont humaines sur la terre et ne se posent jamais à un point de vue humain, mais au contraire, oriente votre vie humaine dans un sens qui fait qu'elle est plus profondément humaine. Vous voyez, avoir cette espèce de liberté intérieure d'une conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on fait par amour pour le Christ. Tout ce que nous le faisons par amour pour le Christ, si nous sommes chrétiens. Si nous sommes de Saint-Jean, nous cherchons à être des amis du Christ. Et donc, tout dans notre vie doit être marqué de cette amitié et en vue de cette amitié. Ce qui serait contraire à cette amitié ne doit pas être fait. Et donc, nous avons par là une réflexion intime de ce que c'est l'amitié chrétienne. Cela rejoint ce que nous voyons en philosophie. Quelle différence y a-t-il entre une éthique humaine et une éthique chrétienne? On le voit philosophiquement. Il faut que nous découvrions nous-mêmes dans notre vie et que nous comprenions que l'acte humain analysée par Aristote, par Thomas d'Aquin, est une analyse de quelque chose de réel dans notre vie. L'acte humain. L'acte humain commence par l'amour. L'acte humain implique des choix, implique des délibérations. L'acte humain accompagne toutes nos réflexions et comprend que ces réflexions de l'acte humain doivent se faire à partir de la conscience que j'ai de mes activités. Vous voyez, c'est faire le point de notre vie, faire le point pour voir ce qui, dans notre vie, dépend de notre vocation, ce qui, dans notre vie, dépend de notre choix humain, ce qui, dans notre vie, peut dépendre d'un choix divin. Dieu est un verre. Et que ce qui dépend d'un choix humain, pour nous, en tant que chrétiens, est dépassé tout le temps par un choix divin, par un choix chrétien. Vous voyez que notre philosophie repose sur nos expériences. Tout le temps. Ne rien admettre en philosophie sans que ce soit passé à travers notre expérience, externe ou interne. Pour que ce que nous essayons d'apprendre, de comprendre, de saisir, soit vécu et non pas uniquement à portée de l'extérieur, mais que ce soit vraiment vécu comme quelque chose d'important. Et c'est vrai, c'est important pour nous.